Les raisons pour lesquelles nous devons rendre grâce à Dieu. Ça sera le thème de ce soir. Mais j'aimerais reprendre avec la prière, donc au verset 9, Colossiens 1, verset 9. Pardon, mais notre texte sera le verset 12, 13 et 14. Écoutons donc la parole de Dieu. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alors nous avons dans les versets 12, 13 et 14 un résumé de la doctrine de l'Évangile, de ce salut que Dieu nous a donné, de notre rédemption par Jésus-Christ. Mais il nous est donné pas comme un enseignement en fait, pas comme un serment, mais comme un hymne de louange, une doxologie des actions de grâce qu'il est en train de rendre à Dieu. Vous voyez ça au verset 12. Rendez grâce au Père pour toutes ces choses. Et donc, il commence à résumer. Si vous regardez le verset 12, en résumant le salut, il ne parle pas de la rédemption dans l'ordre naturel. C'est-à-dire, il ne commence pas par l'œuvre de Christ, et puis l'application du salut aux pécheurs, il en parle en fait de l'ordre inverse. Car dans notre expérience de salut, c'est l'application de ce salut qui précède ce qu'on comprend souvent de l'œuvre du salut. Nous trouvons, comme disait le commentateur Matthew Henry, il disait, nous trouvons d'abord les bienfaits de la rédemption dans notre cœur, et puis nous sommes conduits par ces courants vers l'origine et la source. Et donc, il dit au verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Il commence avec cette application. Il vous a rendu capable de ces choses. Et puis, il va après construire la fondation de ce salut que nous avons reçu. Et donc, juste puisque c'est plus une méditation que même une prédication, j'ai voulu donner trois choses que nous étions, si vous voulez, avant Christ, mais ce que nous serons encore aujourd'hui sans Christ. Et je vais juste prendre ce qui est là et le mettre à l'envers, si vous voulez. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Donc, on voit une intervention divine dans la vie du croyant. Alors, je vais poser la question, où serions-nous aujourd'hui sans cette intervention divine? Et j'ai trois pensées. René me les a imprimées. Donc, ça, c'est la première. Sans intervention divine, notre seul sort seraient les ténèbres de l'enfer. Voyez ça au verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Mais sans avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, notre seul sort serait les ténèbres, qui est le contraire de la lumière, et les ténèbres de l'enfer. Notre sort, au lieu d'avoir un héritage auprès de Dieu, notre sort serait les ténèbres de l'enfer. Au lieu d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, notre part serait dans les ténèbres de l'enfer. Il y a une fin terrible qui attend les pécheurs qui meurent sans Christ. Philippiens chapitre 3, les versets 18 et 19 disent ceci, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, je parle maintenant encore en pleurant. » Et puis il dit, « Leur fin sera la perdition. » Imaginez, des gens et leur fin, c'est la perdition. Matthieu 25 et verset 41, Jésus parle et dit ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Ça, c'est leur destination finale. Luc 12, 45 et 46. Mais Jésus raconte une autre histoire. Il dit, « Mais si ce serviteur dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir, il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. » Voyez, nous avons une part avec les saints dans la lumière, mais Dieu donne à certains leur part avec les infidèles. 2 Corinthiens 11, verset 15, Paul parle, il dit, « Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Ils ont une fin réservée et ce sera selon leurs œuvres. Et puis 2 Pierre 2, 17, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Vous voyez la fin? L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Jude 13 dit à peu près la même chose de ces gens. Il dit, l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est-à-dire, il n'y aura pas de fin de cette fin. Alors je vous demande, je vous pose la question, est-ce que c'est vous? Jean 3, quand Jésus parle avec Nicodème, dans le verset 18, il dit, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Quel sort terrible! Mais si nous ne croyons pas, vous êtes déjà jugé. Cette fin, vous êtes déjà attribué par le juge de toute la terre. Alors, si vous êtes en Christ, quelle raison de rendre grâce? Regardez le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Quel contraste entre les ténèbres de l'enfer et l'héritage des saints dans la lumière. Ça devrait nous pousser donc à rendre grâce au Père. Ça, c'est donc la première chose. Sans Christ, notre seul sort serait les ténèbres de l'enfer. Et puis regardez verset 13 pour la deuxième chose. Il, donc c'est Dieu ici, le Père, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors on peut le dire comme ça. Sans intervention divine, nous serions sous la domination des ténèbres et dans le royaume de Satan. C'est le contraire ici de ce qu'il dit au verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Sans Christ, nous serions toujours sous la domination, la puissance des ténèbres. Et il dit, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Eh bien, sans Christ, nous serions toujours dans le royaume de Satan. Dans le royaume de Satan. Acte 26, verset 18, Paul raconte son témoignage. Et il dit que Dieu lui est apparu lors de sa conversion et lui a dit qu'il allait le faire, en fait, un apôtre pour les païens, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Vous voyez ce contraste? Quand il parle des ténèbres, il parle de la puissance de Satan. Donc quand il dit ici, il nous a transportés dans le royaume de son Fils, bien-aimé, il faut savoir qu'avant, nous étions sous la puissance des ténèbres, sous la puissance de Satan, comme dit Actes 26, verset 18, ou verset oui, 18. Donc, au moment où Adam a péché, la domination du monde a été transférée d'Adam à Satan. Satan est devenu le prince de ce monde. Et ce dernier est à la tête d'une vaste armée de démons puissants et organisés qui sont résolus à détruire l'œuvre de Dieu, à détruire le peuple de Dieu s'il pouvait. Satan, vous savez, il agit en accusant devant Dieu les élus et en tentant, en incitant les gens à pécher contre Dieu. C'est exactement ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il les a tentés, et puis après qu'ils ont échoué, qu'ils sont tombés chutés dans le péché, il les a accusés devant Dieu. C'est exactement la même chose qu'il fait encore aujourd'hui. Éphésiens 2, versets 1 et 2, vous devez connaître ces versets. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Écoutez après ce qu'il dit, selon le train de ce monde. Et puis il dit ceci, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il y a cette puissance de l'air, il y a un esprit malin qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et 1 Jean 5, 19 nous paie le contraste quand il dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est là où nous étions. Nous n'étions pas neutres. Nous étions en fait ennemis de Dieu et sous la puissance et la domination du malin. L'esprit du malin agissait en nous. Et voilà une vraie raison pour laquelle Christ est venu. Jean 3, 8 dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et juste avant, la phrase juste avant dit ceci, « Celui qui pêche est du diable. » Donc vous voyez la puissance des œuvres du diable, c'est de contrôler ceux qui sont du diable. Et c'est pour ça que Christ est apparu. Et dans 1 Jean 3, en fait, nous voyons que ne pas être en Christ et d'être du diable. Il n'y a pas de troisième catégorie. Il n'y a pas une personne qui dit « Oh, moi, je ne suis pas pour Dieu, je ne suis pas pour le diable, moi, je suis indépendant, je suis neutre. » Ça n'existe pas. Soit on vit comme, avec Dieu comme maître, soit nous vivons avec le malin, Satan, comme maître. Et nous sommes sous sa domination. En effet, 1 Jean 3, vous pouvez le lire plus tard, mais il présente ce grand contraste entre les fils de Dieu et les enfants du diable. 1 Jean 3, 10 dit « Les enfants de Dieu et les enfants du diable ». Vous voyez, il y a ces deux catégories. Écoutez ce que dit Hébreux 2, 14. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, Christ, a également participé lui-même, afin que par la mort il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Et 2 Timothée 2, 26 parle des gens qui sont dans les pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. À sa volonté. Il s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, sans intervention divine, je serai, vous serez aujourd'hui sous la domination des ténèbres et dans le royaume de Satan. Quelle raison donc de rendre grâce à Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et puis, verset 14, pour la troisième chose, il dit, en qui, parle de Christ maintenant, verset 14, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alors, si on met ça à l'envers, qu'est-ce que ce serait de ne pas avoir ces choses? Eh bien, on peut le lire ici, sans intervention divine, nous serions condamnés et sans espoir de rédemption. Condamnés. Pourquoi condamnés? Parce que sans pardon. Et sans espoir de rédemption, parce qu'il n'y aurait pas de rédemption en Christ. Donc, condamnés et esclaves pour toujours, en fait. Mais rendons grâce à Dieu pour Christ, en qui, verset 14, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Où seriez-vous aujourd'hui sans Christ? Je sais, j'ai la réponse. Sans intervention divine, vous serez condamnés. Et sans aucun espoir de rédemption. Jean 8 et verset 34, c'est Jésus qui parle. Et j'ai depuis très longtemps trouvé ces mots parmi les plus presque horribles dans la Bible. Jésus dit ceci, « C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Imaginez l'horreur de mourir dans ses péchés, sans pardon, sans rédemption. Jean 3, 36, Jésus aussi parle et dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais, écoutez ceci, mais la colère de Dieu repose sur lui. Celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Mes amis, ce n'est pas très populaire, mais le COVID-19 non plus n'est pas très populaire, mais on nous en parle parce que c'est une réalité. Et c'est une réalité, et donc il faut le dire, que la colère de Dieu est une actualité, et que celui qui ne croit pas au Fils ne verra jamais la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Imaginez, vous vivez toute votre vie et sur vous demeure la colère de Dieu. Et cette colère vous suivra pendant toute l'éternité. En fait, après la mort, vous allez ressentir la colère dans toute sa force. Proverbe 8, verset 36 dit, « Mais celui qui pèche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Et Marc 16, 16 dit, « Celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ça devrait nous motiver à rendre grâce. Alors, pour conclure, un avertissement et puis un encouragement. D'abord, un avertissement. Et cet avertissement vient d'Hébreux 12, 25. Je vais vous le lire. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des ciels ou du haut des cieux? C'est-à-dire, nous, s'ils n'ont pas échappé dans l'Ancien Testament, combien moins échapperons-nous qui avons reçu le Nouveau Testament et l'Évangile de Dieu? On ne se moque pas de Dieu, on n'échappe pas à Dieu. Il y a une histoire que les Grecs racontaient où ils vont personnifier la mort et dit qu'un jour, il y a un jeune homme et dans sa ville, il voit tout d'un coup dans la rue la mort, comme si la mort était une personne. Et il est effrayé par la vue de la mort, et la mort qui se tient devant lui est extrêmement surpris aussi de le voir. Et donc il va, il court, il s'échappe, il va à un vieillard et il dit « Qu'est-ce que je dois faire pour échapper à la mort ?» Et le vieillard lui donne le nom d'une autre cité en Grèce et il dit « Il faut que tu ailles tout de suite sans t'arrêter, il faut échapper, il faut courir sans t'arrêter. » Et c'est comme cela que tu échapperas à la mort. Et donc tout de suite il part en courant, il court toute la nuit pour arriver à cette ville de refuge où il pense pouvoir échapper à la mort. Et il arrive là, et quelques minutes plus tard, dans cette ville où il est allé pour échapper à la mort, il voit devant lui la mort. Et il est encore surpris de voir la mort. Il pensait échapper à la mort. Et la mort lui dit, « Tu sais, quand je t'ai vu hier, j'étais tellement choqué de te voir si loin, sachant que j'avais un rendez-vous avec toi aujourd'hui dans cette ville ici. » Et c'était la façon que les Grecs avaient de dire que, en fait, on ne peut pas échapper à la mort. Et la mort divine est encore plus comme cela. Nous ne pouvons rien faire pour échapper à la mort, à part Jésus-Christ. Il y a un seul nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvé. Ça, c'est l'avertissement. Et puis, je vous donne un encouragement. Et l'encouragement pour ceux qui sont en Christ, c'est de se souvenir de ce que nous étions sans Christ. Et je reviens pour cela à Éphésiens chapitre 2. Il parle à des chrétiens, il dit « Vous étiez morts ». Il parle de leur vie avant Christ. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » Il dit, verset 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Il veut leur rappeler de ce qu'ils étaient avant. Il dit, verset 5, « Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus vivants. Il nous a ressuscités, etc. » Verset 6 et verset 7. Et puis il dit cela au verset 11, Éphésiens 2, 11. « C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous, c'est un commandement, c'est un impératif, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Souvenez-vous que vous étiez sans espérance. Souvenez-vous que vous étiez sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Vous rappelez, il leur dit, souvenez-vous, maintenant, aujourd'hui, souvenez-vous de ce que vous étiez autrefois. La première fois que ce mot « souvenez-vous » est utilisé, c'est en Matthieu 16, verset 9. Et Jésus parle, il dit « Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous pas les 5 pains et les 5000 hommes ? Et combien de paniers vous avez emportés ? » C'est Jésus qui dit « Mais ne rappelez pas de ces choses ?» Et c'est un peu comme l'Esprit nous dit ça en Éphésiens. « Ne vous rappelez pas de qui vous étiez ?» Et c'est vraiment comme ça qu'on devrait s'encourager. Nous sommes peut-être tentés à nous plaindre de notre santé ou des choses. Et c'est comme l'Esprit de Dieu vient et dit, « Mais ne vous rappelez pas de ce que vous étiez avant moi ? Souvenez-vous de ce que vous étiez avant. » Et je pense que ce serait un bon exercice pour nous en tant que croyants de nous arrêter, de nous poser, peut-être même d'écrire dans un cahier ce que nous étions avant Jésus-Christ. Et tentez d'imaginer, essayez d'imaginer ce que vous serez aujourd'hui sans intervention divine. dans quel péché seriez-vous déjà tombé? Quelle vie seriez-vous en train de vivre aujourd'hui sans intervention divine? Et donc, il y a cet encouragement. Souvenez-vous, souvenez-vous. Et si vous vous souvenez de ce que vous étiez et vous rappelez de ce que Christ a fait pour vous, je suis sûr que ça va remplir vos cœurs d'allégresse, mais aussi de reconnaissance envers ce grand Sauveur. Et vous rappelez, c'est ce qu'il veut. Il veut, c'est une caractéristique d'une vie qui plaît à Dieu. C'est une vie remplie de reconnaissance, toujours en train de rendre grâce à Dieu pour son salut. Prions le Seigneur. Dieu, nous te louons de ce que tu es venu dans la personne de ton Fils. Tu as été en ton Fils, ici sur terre, pour réconcilier le monde avec toi. Te remercions pour l'œuvre du Saint-Esprit qui a pris l'œuvre de Christ et l'a appliquée à nos cœurs en nous convainquant de notre péché et de ce grand salut que nous avons en Christ. Et nous te remercions pour cet héritage dont tu nous as rendu capables par Christ d'avoir pour nous-mêmes, d'avoir part à cet héritage. Tout est de grâce, tout est par pure grâce. Et sans toi, nous savons que nous serions tous condamnés à une éternité de ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Merci pour ce grand salut. Et nous prions que tu sauves encore aujourd'hui celui ou celle qui est le plus loin de toi, qui te recherche peut-être le moins, mais qui a tellement besoin de ta grâce et de ton intervention. S'il te plaît, Seigneur, par ton esprit, interviens encore dans les cœurs, les consciences, les pensées des hommes et des femmes et des enfants pour les attirer à Jésus-Christ dans la repentance et dans la foi. À toi la gloire, à toi la victoire, au siècle des siècles. Amen. Dieu vous bénisse richement.